Il était le seul à la cour qui appelait le comte de Valois par son prénom, n'ayant pas changé d'habitude depuis le temps où il n'était que cousin. Et puis sa taille, sa force, sa truculence lui donnaient des droits qui n'étaient qu'à lui.
« Robert a raison, » dit Philippe de Valois. « On pourrait par exemple inviter le roi Édouard à la croisade et là... »
Un geste imprécis acheva sa pensée. Il était imaginatif, décidément, le grand Philippe. Il voyait le passage d'un guet, ou mieux encore une rencontre en plein désert avec un parti d'infidèles. On laissait Édouard s'engager à la charge, puis on l'abandonnait froidement aux mains des Turcs. Voilà une belle vengeance.
« Jamais !» s'écria Charles de Valois. « Jamais Édouard ne joindra ses bannières aux miennes. D'abord peut-on même parler de lui comme d'un roi chrétien. Ce sont les morts qui ont de pareilles mœurs !»
En dépit de cette indignation, Mortimer fut saisi d'inquiétude. Il savait trop ce que valent les paroles des princes et comment les ennemis de la veille peuvent se réconcilier le lendemain, même faussement, quand ils y ont intérêt. S'il prenait envie à Monseigneur de Valois pour grossir sa croisade, d'y convier Édouard, et si Édouard feignait d'accepter.
« Quand bien même le feriez-vous, Monseigneur, dit Mortimer, il y a peu de chances que le roi Édouard réponde à votre invite. Il aime les jeux du corps, mais déteste les armes. Et ce n'est point lui, je vous l'assure, qui m'a vaincu à Shrewsbury. Édouard prétextera, et avec juste raison, les dangers que lui font courir les Écossais.
« Mais j'en veux bien, moi, des Écossais, dans ma croisade, dit Valois.
Robert d'Artois frappa ses énormes poings l'un contre l'autre à petits coups. La croisade lui était totalement indifférente, et même, à vrai dire, il n'en avait aucune envie. D'abord, il vomissait en mer. Sur terre, tout ce qu'on voulait, mais rien sur l'eau. Un nourrisson y était plus fort que lui. Et puis, il songeait avant tout à la reprise de son comté d'Artois, et une course de 5 ans au bout du monde ne ferait guère progresser ses affaires. Le trône de Constantinople n'était pas dans son héritage, et il ne lui plaisait en rien de se retrouver un jour commandant quel qu'il pelait dans des eaux perdues. Il n'avait pas d'intérêt non plus au commerce des épices, ni le besoin d'aller enlever des femmes aux Turcs. Paris regorgeait de houris à 50 sols et de bourgeoises qui coûtaient encore moins. Et Madame de Beaumont, sa compagne, fille de Monseigneur de Valois ici présent, fermait les yeux sur toutes ces incartades. Donc cette croisade, il importait surtout à Robert d'en reculer le plus possible l'échéance, tout en feignant de l'encourager. Il ne travaillait qu'à la retarder. Il avait son idée en tête, et ce n'était pas pour rien qu'il avait conduit Roger Mortimer à son beau-père.
« Je me demande, Charles, dit-il, s'il serait bien sage de laisser longtemps le royaume de France dépourvu d'hommes, privé de sa noblesse et de votre commandement, à la merci d'un roi d'Angleterre qui montre assez qu'il ne vous veut pas de bien.
« Les châteaux seront pourvus, Robert, et nous y laisserons des garnisons à suffisance, » répondit Valois.
« Mais sans noblesse, sans la plupart des chevaliers, et sans vous, je le répète, qui est notre grand homme de guerre, qui défendra le royaume en notre absence ? Le connétable, bientôt sur ses 75 ans, et dont ces miracles qu'il se soutiennent encore en selle ? Notre roi Charles ?
Si Édouard, comme nous le dit Lord Mortimer, se plaît peu aux batailles, notre gentil cousin s'y entend encore moins. Au reste, à quoi s'entend-il sinon paraître frais et souriant devant son peuple ? Ce serait folie d'offrir le champ aux mauvaisetés d'Édouard sans l'avoir auparavant affaibli d'une défaite.
Alors, aidons les Écossais, proposa Philippe de Valois. Débarquons sur leurs côtes et soutenons leur lutte. Pour ma part, j'y suis prêt.
Robert d'Artois baissa le nez pour ne point montrer ce qu'il pensait. Ah, on en verrait de belles si Philippe prenait le commandement d'une équipée en Écosse. L'héritier des Valois avait fait la preuve de ses aptitudes en Italie, où on l'avait envoyé soutenir le légat du pape contre les Visconti de Milan. Arrivé fièrement avec ses bannières, Philippe s'était si bien laissé manœuvrer et rouler en farine par Galeazzo Visconti qu'il avait tout cédé en croyant tout gagner et s'en était retourné sans même avoir livré la plus petite bataille. Roger Mortimer, pour sa part, parut quelque peu blessé par la suggestion de Philippe de Valois. Car s'il était l'adversaire du roi Édouard, l'Angleterre tout de même était sa patrie. « Pour l'instant, dit-il, les Écossais se tiennent assez en paix et semblent décidés à respecter le traité qu'ils nous ont imposé l'autre année.
« Et puis l'Écosse ? L'Écosse ! Renchérit Robert. « Il faut passer la mer !
Réservons donc nos nerfs pour la croisade. » Mais nous avons peut-être meilleur terrain pour défier ce bougre d'Édouard. Il n'a pas rendu hommage pour l'Aquitaine. si nous le forcions à venir défendre ses droits en France, dans son duché, et qu'à cette occasion nous allions l'écraser, d'abord, nous serions tous vengés, et par surcroît, il se tiendrait au calme pendant notre absence. »
Valois tournait ses bagues et réfléchissait. Une fois de plus, Robert se révélait un conseiller avisé. L'idée était vague encore que ce dernier venait d'émettre, mais déjà Valois en apercevait tous les développements. D'abord, l'Aquitaine ne se présentait pas à lui comme une terre inconnue. Il y avait fait campagne, sa première grande campagne, victorieuse, en 1294.
« Ce serait à coup sûr, dit-il, un bon entraînement pour notre chevalerie qui n'a point vraiment guerroyé depuis longtemps, et un motif aussi pour éprouver cette artillerie à poudre dont les Italiens commencent à faire usage. Notre vieil ami Tolomei s'offre à nous en fournir. Certes, le roi de France peut mettre le duché d'Aquitaine sous sa main pour défaut d'hommage. »
Il resta pensif un instant.
« Mais il ne s'ensuivra pas forcément combat d'armée, conclut-il. On négociera, comme de coutume. Ce deviendra affaire de parlement et d'ambassade, et puis, en rechignant, l'hommage sera rendu. Oh, ce n'est pas une bonne cause. »
Robert d'Artois se rassit, les coudes sur les genoux et les poings sous le menton.